Alors nous allons revenir au deuxième volet de ce débat entre Clavel et Solers. Par question de les couper, c'est vraiment passionnant. Et le deuxième chapitre de leur dialogue face à face, toujours sur les ondes en avril 1977 de Radio Suisse Romande de second programme, s'intitulait « La crise du marxisme ». Jacques Pougam de Radio France.
Avant d'aborder le thème de ce deuxième des cinq face à face, le thème étant la crise du marxisme, Maurice Clavel, il serait peut-être bon que vous prolongiez un petit peu ce que vous disiez hier de mai 68.
Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de placer, si vous voulez, mon interprétation à moi de mai 68, qui n'est pas tout à fait celle de Solers, dont je disais qu'elle était beaucoup moins philosophique, qu'elle était tout au plus celle d'un journaliste transcendantal. Plaçons-la sous le signe du vécu. Bon, c'est un fait que j'ai été converti au christianisme d'une façon non pas transcendantale mais transcendante, c'est-à-dire avec ce que j'ai cru être une très grande brutalité d'en haut. Et à peine émergeais-je de cela, qui avait duré 4 ans, qui avait été une très grave maladie, que je me suis mis à rejeter un regard sur le monde, et qu'au nom même de ma foi, j'ai trouvé ce monde insupportable. De par les racines de tous les régimes politiques où nous vivions, que ce soit communisme d'un côté, capitalisme de l'autre. J'ai trouvé donc ce monde à renverser et à subvertir au nom même de ce qu'il faisait ma foi. En même temps, j'étais critique de télévision au Nouvel Observateur, et en étudiant un peu le spectacle du monde tel qu'il se présentait à fleur d'écran, je peux dire que j'ai vu le néant. J'ai réalisé en quelque sorte l'être du non-être. En même temps, j'étais professeur de philosophie, 200 élèves par an, au lycée Buffon, et je me demandais, au contact de mes élèves, n'est-ce pas, comment ces gens qui ont 20 ans et qui ont quand même au moins l'élan vital de la 20e année peuvent-ils entrer dans ce monde sans se sentir absolument perdus, laminés, anéantis, passés à la moulinette. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Si j'étais à leur place, moi, j'ai eu la guerre à 20 ans, c'est un privilège en quelque sorte. Si j'étais à leur place, ce ne serait pas possible. Et ce néant, évidemment, ça c'est un converti qui vous parle, Solers, ce néant, je l'ai surtout baptisé néant spirituel, c'est-à-dire néant des raisons de vivre chacun, des raisons de vivre ensemble. De telle sorte qu'il m'est arrivé cette expérience curieuse que, dans mes articles du Nouvel Observateur, il m'est arrivé des fusées, éclairantes ou non, pendant toute l'année 66, 67 et la moitié de 68, où je disais, ça ne peut pas durer, ça ne va pas durer, il va se passer une révolte totale, une révolte qui sera fille de l'esprit, et comme je savais que ces gens qui ne pouvaient vraiment, ni vitalement, ni spirituellement entrer dans ce monde, aller avoir une rébellion totale et n'en connaîtrait pas tout à fait les raisons, il se passerait, c'est presque là ma psychanalyse existentielle, mon Freud retourné du côté de l'esprit, cette névrose, cette révolte à la source et à la raison indéchiffrée serait convulsive, et ces convulsions même, loin de les rejeter par avance, je les appelais, d'où cette phrase que j'ai écrite avec 3 ou 4 variantes, « Espérons la convulsion salutaire, préparons-la ». De telle sorte, Solers, que le 3 mai 68, je débarquais à Paris, gare de Lyon, j'ai vu sur un journal l'annonce de la mode de la nuit, j'ai dit à ma femme, tiens, on y est. Et en rentrant à mon journal, j'ai dit, à l'heure où s'annoncent ces convulsions que j'annonce avec une sorte d'espoir depuis des années, il serait beau de faire devant ce déchaînement de violence la bouche en cul de poule du moraliste humaniste. En vérité, je ne savais pas que l'esprit, et majuscule, ça vous plaira, Hegelien Solers, je ne savais, c'est œcuménique, je ne savais pas que l'esprit refoulé reviendrait sitôt exercer les ravages de sa vengeance en des colères sans plan et sans plateforme, en des fureurs saintes sans dogme, en transe où se mélangent les gestes du réveil et de l'agonie. Et j'ai écrit ça tout de suite. Autrement dit, il y avait beau avoir en face tout l'appareil de l'État et De Gaulle même, que j'avais aimé, apprécié, estimé au point que vous savez, j'ai mis ce mouvement au moins à égalité avec De Gaulle. J'ai vu le premier jour De Gaulle balayer parce que c'était le souffle de l'esprit, c'était le courant, ou encore, si vous me permettez une autre métaphore, c'était la terre qui se fracturait, qui s'en trouvait dans ses profondeurs, c'était le grand sisme de toute notre culture. Alors De Gaulle ou pas De Gaulle, finalement, ça n'avait à mes yeux aucune importance. Et ce qui m'a confirmé, et là je diverge de vous, mais à peine, Ce qui m'a même semblé différent de la Commune de Paris, c'est que la Commune de Paris avait quand même une sorte de projet politique plus avoué. Dès qu'on a commencé à donner la parole à ces émeutiers et qu'on demandait ce qu'ils voulaient, ils répondaient tout. Quand on leur demandait ce qu'ils voulaient changer, ils répondaient tout. Et quand on leur demandait que voulez-vous mettre à la place, ils vous riaient au nez. Et à mon sens, ils avaient raison de rire au nez, puisqu'évidemment, si c'est le terrain fondamental d'une culture qui change, c'est-à-dire y compris le code, la grille, les a priori de nos mœurs, de nos gestes, de nos métaphysiques, de nos magazines et de nos pensées, il est évident qu'on ne peut pas prédire la suite comme un projet. Donc, c'était vraiment, selon moi, la révolution culturelle en un sens beaucoup plus profond que celui des Chinois eux-mêmes, finalement. Et alors donc, cette totalité m'a fait penser à ce retour de l'esprit. Je l'ai appelé de façon peut-être trop confessionnel, trop peu œcuménique. Cette fois, parfois, j'ai dit que c'était un retour de Dieu. Je préférerais aujourd'hui dire, avec Lardro et Jambé, que c'est un retour de l'ange. Ou encore, comme je le fais accepter par mon ami le sartrien Pierre Victor, un retour de l'auto-transcendance humaine, c'est-à-dire une dimension de l'homme qui, n'en pouvant plus d'être occulté et refoulé, éclate. C'est à ce moment-là que je vais m'en prendre, Solers, pour engager vraiment le débat, à Marx et à Freud, sans colère, sans polémique. Cette interprétation de journaliste transcendantal, eh bien, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais la seule autre interprétation de mec qui m'est un peu gêné devant ce côté tout ou rien de ces émeutiers-là, c'est une interprétation d'un psychanalyste freudien, très orthodoxe, vous direz sans doute très normalisateur. Je parle du docteur Mandel, dans La crise des générations. Oui, je vois que vous souriez, vous êtes plein de rage. Mais il disait ceci, s'ils veulent tout ou rien, s'ils veulent tout détruire, c'est le signe même, c'est une interprétation très péjorative, de régression infantile à un état pré-édipéen où s'impose l'image de la mère mauvaise, la société et l'état étant la mère mauvaise, et c'est ainsi qu'il prétendait reconstituer la psychologie régressive et infantile du casseur. Et c'est un fait que je pouvais accorder à ce freudien normal et normalisant qu'il pouvait y avoir de cela dans le casseur. Et alors moi, qu'il y ait eu autre chose, qu'il y ait le retour de la transcendance, je l'opposais à ce freudien normal normalisant, mais comme un acte de foi, comme un acte d'espoir, comme un acte d'intuition et de vécu personnel. Donc voilà pour Freud, c'est sommaire, nous le développerons tout à l'heure si vous voulez bien. Pour Marx, il est incontestable que là je me trouvais en porte-à-faux, c'est-à-dire que je voyais le retour de l'esprit, à la limite même le retour de Dieu. Je le voyais dans les cœurs, dans les esprits, dans les corps, etc. Je voyais toute la culture du 19e siècle littéralement foutue en l'air, alors que je suis obligé de le concéder, et je l'ai toujours concédé, la quasi-totalité de ces émeutiers-là, de ces jeunes émeutiers-là, se réclamaient ouvertement et explicitement du marxisme. Il n'y a eu qu'une seule inscription sur le mur de la Sorbonne, le marxisme au pion du peuple, qui me semblait avoir quelques années d'avance, n'est-ce pas? Mais je dois être honnête et dire qu'il n'y en avait qu'une. Et pour cela, j'ai dû interpréter, peut-être c'est là où j'ai été un petit peu trop adroit, pour faire accorder les faits et ma théorie, j'ai dit ceci. Voilà des jeunes gens qui contestent toute une culture au sens profond sur lequel nous sommes, je crois, d'accord, vous et moi. Mais avec quoi contiste-t-il cette culture? Avec leur être, avec leur vie, avec leur esprit, c'est-à-dire avec quelque chose qui n'est pas encore un concept, qui n'est pas encore un système. Donc, ils ne savent, à la lettre, entre guillemets, si vous voulez, ils ne savent pas avec quoi. Et comme nous sommes dans une époque où il faut quand même savoir, pour pouvoir contester toute la culture de ces deux derniers siècles, ils sont allés chercher à l'intérieur de cette culture l'idéologie qui leur semblait la plus contestataire de cette culture, c'est-à-dire le marxisme. Donc ils se sont raccrochés au marxisme pour pouvoir dire quelque chose dans leur contestation de cette culture, alors que le marxisme était peut-être le plus contestable de cette culture. Bref, en vertu de cet équivoque, de cette entourloupette des choses, si vous voulez, ils ont fait, et ça a été mon acte de foi, mon pari et mon interprétation à la fois, ils ont fait au marxisme un été de la Saint-Martin. Je ne veux pas jouer les triomphateurs, mais il est évident que ce grand mouvement idéologique freudien, marxiste, vous savez que avant 68, il y avait 10 essais de freudo-marxisme par an, c'est-à-dire de synthèse de cocktail Freud-Marx. Après 68 jusqu'en 70, il n'y en a pas eu 10, il y en a eu 100, n'est-ce pas? Et puis c'est mort. Et puis c'est fini. Et puis il y a eu des gens. C'est ce que nous allons voir. Je vous demande 30 secondes encore. Et puis, au nom même de mon interprétation et de mon intuition, sentant que c'était cela, sentant que c'était cela chez tel ou tel de mes amis ou camarades émeutis en pleine action ou dans leurs discours qui se cherchaient. Je me suis permis de leur donner rendez-vous. Au sens, vous connaissez peut-être ces deux répliques admirables du soulier de satin entre Donia Prouez et Don Camille. Prouez, adieu, je ne vous reverrai jamais. Camille, je vous donne rendez-vous. Eh bien, en ce sens-là, je leur ai donné un rendez-vous profond. En quelque sorte, vous y viendrez, nous nous retrouverons, même et au-delà d'un militantisme commun que j'ai fait avec eux, gauche prolétarienne, agence de presse et libération, j'ai vu soudain, en moins d'un an, surgir, sinon des actes, du moins des écrits, qui sont maintenant à considérer, je pense, Glucksmann, la cuisinière, le mangeur d'hommes, Lardreau et Jambé, l'ange, un peut-être encore plus beau et fort, l'espoir gravé d'Hélène Bleskin, qui est vraiment la suite de Rimbaud passé par mai 68. Et je me suis dit, ces livres-là, j'aurais été incapable de les écrire, mais je peux dire que dès le 3 mai 68, je les avais vus. Ou plutôt, je ne les découvre pas, je les reconnais. Tout se passe, pardonnez-moi, je suis prétentieux, mais c'est malgré moi, vous comprenez, tout se passe, Solaire, comme si mon rendez-vous était tenu, non seulement par-delà toute philosophie, mais dans une interprétation qui exclut la possibilité et la validité de toutes les philosophies de la culture ancienne en pleine fêlure-fracture, c'est-à-dire Freud-Marx, que j'appellerai, pour relancer un peu la polémique, votre Freud et votre Marx.
Ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan. Capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries. Comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi des 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Paris, mais Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni manne, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
Mais Paris, mais Paris.
Le jeune homme harassé déchirait ses cheveux. Le jeune homme hérissé arrachait sa chemise. Camarade, ma peau est-elle encore de mise? Et dedans, mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu? Avec ma belle amie, quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble? Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. Si je dois endosser cette vérité droite, avec sa manche gauche, avec sa manche droite, ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie. C'est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, où les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme. Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères croûtes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Le long tunnel grondant sur le tour de ses murs, aspiré tout au bout par un rouleau d'azur. Là-bas brille la paix, la rencontre des pôles, et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Gazouiller les pinsons à soulever le jour, et nous autres grinçons qu'on le vit de l'amour.
Impossible de ne pas glisser dans le face-à-face Maurice Clavel et Philippe Solers en avril 1977, un joyau de la chanson française, mais Paris Mai de Claude Nougaro, certainement l'une des plus belles odes à ce printemps mémorable. À la profonde sympathie que Clavel avait éprouvée pour les émeutiers, manquerait la réponse « Mettons freudo-marxiste » de Philippe Solers, toujours dans le deuxième dialogue diffusé sur le deuxième programme de Radio Suisse Romande et que nous suivons aujourd'hui dans l'horloge de sable, histoire de saisir la pensée de notre invité du jour, Solers, écrivain baroque. Le voici dans sa réponse onctueuse.
Eh bien, voilà. Freud nous donne rendez-vous. Et Marx nous donne toujours encore rendez-vous. Et c'est là ma thèse contradictoire avec la vôtre. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit, parce que, comme toujours, je pense que vous allez droit à l'endroit où il faut poser les questions. Personnellement, je ne suis pas chrétien et je n'ai pas vécu cette intrusion dans la subjectivité que vous appelez l'intrusion du divin. Et j'aime beaucoup la façon dont vous dites « j'ai été converti ». Car je pense que dans cette formulation même, il y a une vérité qui n'est pas d'appropriation, mais qui est une vérité d'expérimentation. Et ça m'intéresse beaucoup. Que vous puissiez dire que vous avez été plongé, saisi, mis en confrontation avec quelque chose qui, à l'intérieur de la subjectivité, fait conversion, ça me paraît absolument important.
J'ajouterais, parce que souvent on prend ça, ce passif, pour une dépendance ou un esclavage, j'ai été libéré dans ma subjectivité même.
Voilà, et je voulais y venir, car c'est du sujet que je voudrais parler un peu. De ce sujet qui est peut-être la grande énigme à laquelle nous avons affaire. Mai 68, ça a été la révolution dans la révolte en tant que sujet. Or ce sujet, qu'est-ce qu'il est devenu précisément au XXe siècle? Il y a un grand penseur du sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en employant le terme d'esprit, mais je suis toujours un peu méfiant quand on emploie le terme esprit en français, parce que les Français sont justement les gens qui n'ont pas été capables de lire Hegel. C'est du moins ma thèse. Et quand vous dites Hegel, Geist, l'esprit, oui, dans ce sens-là, je vous rejoindrai une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette magnifique philosophie qu'est et que reste le travail extraordinaire de Hegel?
Je vous l'accorde.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette formulation de la plus grande importance pour l'avenir du monde et de la pensée, que désormais la vérité devrait être conçue comme sujet et non plus comme substance? Que s'est-il passé dans ce qui est rentré à l'intérieur du marxisme de cette pensée de Hegel, du sujet? Là, nous avons affaire à une, à mon avis, à une catastrophe, car les marxistes se sont acharnés à nier précisément la dialectique en tant que négatif, en tant qu'elle est ce travail du négatif et en tant qu'elle est ce travail profond du sujet. Par ma cause, précisément.
Vous dites que les marxistes y sont acharnés, et je vous dirais que Marx y a mis beaucoup de sien, les a beaucoup aidés.
Je dirais que, en tout cas, c'est une question à la fois politique et philosophique, que par exemple, entre les cahiers sur la dialectique de Hegel, de Lénine, et la schématisation de Staline, il y a quelque chose qui reste encore, je vous donne rendez-vous, bon. Encore à apprécier. Et ce sont des questions qui ont l'air comme ça, pour les auditeurs, peut-être un peu abstraites ou un peu philosophiques, mais que je crois de la plus grande importance. Mais je voudrais en venir à Freud qui nous donne rendez-vous.
Attention, vous en étiez à mai 68 et le sujet.
Le sujet.
Vous m'avez même accordé la libération du sujet en tant que tel.
Vous avez dit retour de l'esprit, de l'ange ou de quelque chose qui habite l'homme en tant que divin. Moi, je
dirais... Non, qui habite l'homme en tant que divin et qui est lui-même aussi.
Bon, moi je dirais retour du refoulé.
J'ai dit Dieu refoulé ou l'esprit refoulé 20 fois. Hein? Bon.
Bon. Je dirais.
Alors, voyons nos différences.
Je dirais ça. Alors, je dirais que je n'ai pas donc cette expérience dont vous soutenez, mais ce qui m'a, moi, extraordinairement bouleversé dans 68, c'est que, voyons, je suis écrivain. Je suis un écrivain qui a des positions politico-philosophiques, qui essayait de se situer à l'époque autour du Parti communiste. Je n'étais pas membre du Parti communiste, mais je pensais que la continuation de l'histoire passait forcément par là. Qu'est-ce qui m'est arrivé en 68, de mon côté, et pour vous répondre? Comment s'est manifestée concrètement cette irruption du sujet, ou si vous préférez, de l'esprit au sens hegelien? Ça a été dans l'irruption de la langue vivante par rapport à la langue morte. Et je vais tout de suite à quelque chose qui me paraît clarifier les prises de position. Je crois que c'est le langage de mai 68 qui fait, en fait, son relief, sa grandeur, et qui est annonciateur de quelque chose.
Langage de mai 68, vous ne serait-ce que pour nos auditeurs préciser, parce qu'il s'agit des inscriptions... Elles sont fulgurantes, ce sont des fusées, mais justement, c'est leur simplicité qui en fait le diamant, alors que vos travaux et vos libérations même du langage sont pour l'instant, aujourd'hui, à nous tous, beaucoup plus difficiles.
Pour l'instant.
J'ai dit pour l'instant.
Et encore, là, une fois, c'est la notion de rendez-vous qui doit nous intéresser. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous dans l'histoire? C'est ça, justement, le retour du refoulé. 68, les inscriptions, leur fulgurance, d'où venaient-elles? Elles venaient d'un amoncellement silencieux, quantitatif, qui s'était passé sur des années et des années. D'où ça vient? On le voit, on le perçoit, ça vient de l'accumulation de ce qui s'est fait au niveau de ce qu'on a appelé les avant-gardes, les marginaux de tout le XXe siècle. Ceux qui ont, encore une fois, ont été pourchassés à travers toute l'Europe par les régimes totalitaires et par les régimes de trahison de l'analyse fondamentale du langage. Le langage, je veux pas dire simplement les inscriptions. Je veux dire la façon d'être, la façon de vivre, la façon d'avoir un corps, la façon de le mettre en relation avec d'autres corps. C'est ce que j'appelle le langage au sens large, si vous voulez.
C'est bien précisé cela.
Je précise ça. Il s'agit pas d'en faire un recueil de citations de mais. Et d'ailleurs, ce recueil serait fait, encore une fois, j'y reviens, par une accumulation de l'esprit surréaliste. Quelque chose s'est passé dans le surréalisme. Quelque chose s'est passé à travers toutes ces choses-là. Et je voudrais citer, parce qu'ils sont un peu absents du débat, des gens qui me semblent extrêmement importants, et peut-être que c'est eux qui avaient inscrit sur les murs la formule que vous avez eu tout à l'heure, vous avez repéré tout à l'heure, le marxisme et l'opium
du peuple.
Et bien,
je le rappelle, retournant contre Marx, ce qu'il disait que de la religion, n'est-ce pas?
Bien, alors, précisément, ça par exemple, c'est quelque chose qui a eu la plus grande importance en mai, dont on ne parle pas assez aujourd'hui, et qui est dû probablement au mouvement situationniste.
Les vrais précurseurs.
Hein. Mettons les choses au point pour ne pas tenter de faire une hégémonie sur les forces révolutionnaires. Les situationnistes sont des gens qui ont fait un certain travail jusqu'à 68 et dont je voudrais signaler que, par exemple, un livre, à mon avis, tout à fait important et que je citerai, puisque vous en avez cité d'autres, et que je citerai pour donner rendez-vous aux thèses qui y sont présentées, c'est La société du spectacle de Guy Debord, paru en 1967.
À quoi j'ajouterai le traité du savoir-vivre de Van Engem.
Etc. Et puis, toute la revue, si vous voulez, l'international situationniste. Ce sont des gens-là qui ont écrit, juste avant 68, des thèses qui sont, par certains côtés, vous me l'accorderez si vous l'avez lu, et parce que c'est un livre qui est très lu des nouvelles générations, donc ils sont importants. Ce sont des gens qui savent ce que c'est que Hegel. C'est écrit dans un style tout à fait précis, qui est d'origine, de source d'inspiration hegelienne, dans la formulation même. Mais la thèse que je voulais présenter de la révolte de 68 et de son importance, c'est une vigilance qui doit être la nôtre aujourd'hui contre tout ce qui est la récupération du spectacle, nouvelle dimension de l'adversaire idéologique suprême, absolu, que nous avons dans nos sociétés.
Il s'agit de savoir, remettons les pieds dans le plat, m'accusez-vous par là d'être un homme de spectacle?
Pas du tout.
Parce qu'au fond, je dis, j'ai donné rendez-vous, il est tenu, et vous essayez de me court-circuiter ou de me contourner par un rendez-vous ultérieur, de telle sorte.
C'est de bonne guerre.
Vous êtes de bonne guerre et vous aurez raison. Chacun de nous essaie d'avoir raison plus tard que l'autre. Voilà.
Non, nous débattons.
Vous me permettez de vous interrompre quand même un instant parce
que. On n'est pas au Kriegspiel, ici.
Non, mais vous me permettez l'instant de vous faire un léger reproche, c'est que finalement, vous parlez de Hegel, je vais vous montrer une différence entre nous. Vous parlez de Hegel, que la vérité soit sujet tout à fait d'accord, que Marx, qu'on ne retrouve guère de cela dans Marx, encore moins dans la marxiste, tout à fait d'accord, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Solers, à la différence de moi-même, si vous voulez? C'est que vous essayez d'adapter à la compréhension de mai 68 toutes les philosophies des deux siècles passés, ou du moins tout ce qu'il y avait, selon vous, et à juste titre, de vigoureux et de décisif dans les philosophies des deux siècles passés. Alors que moi, je prétends que la fracture de mai 68, balayant une culture, a balayé par là même toutes ces philosophies du siècle passé, quel que soit le génie des philosophes. Donc ma position est beaucoup plus radicale, beaucoup plus fait allusion à des événements beaucoup plus importants. Et j'ai même plus loin, parce que vous savez que j'ai une formation, vous savez peut-être par mes ouvrages, j'ai une formation qu'ancienne. C'est ce à quoi je suis d'accord avec la fracture de mai 68 pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, et en même temps, dans la mesure où je suis partisan d'une critique au sens fort du mot, du kantienne, c'est-à-dire d'une critique et d'une destruction critique radicale de toute métaphysique possible. Je crois que Kant a liquidé Leibniz parce qu'il ne connaissait que Leibniz. Hegel se présente comme une réponse à Kant, en réaffirmation par le fait et par le génie de la possibilité d'une métaphysique. Et c'est, je crois, cela qui est mort et dont mai 68 a achevé d'une façon plus sociologique et plus implicite de consacrer la ruine. Donc je crois que nous sommes dans un vide beaucoup plus grand, dans un néant beaucoup plus radical que vous ne le prétendez, et que vous essayez non pas de ravauder et de rapiécer, vous êtes beaucoup plus profond que cela, mais que vous essayez quand même de sauver une interprétation selon les deux siècles passés de ce qui est venu brutalement leur mettre un terme et en consacrer l'inanité. Voilà la différence.
Philippe Solers, une minute comme début de réponse.
Bon, c'est en effet là une divergence d'interprétation. Je n'essaye de ravauder rien du tout. Je dis que aucune société, à aucun moment, ne peut se passer de philosophie. Je dis que nous allons avoir en ce moment. Et c'est là,
je le conteste. Hein, bon.
Je suis d'accord sur le fait que la philosophie doit être critique et qu'elle doit être avant tout cela, critique et révolutionnaire. Mais je dis.
Enfin, je vous objecte. On fait un peu de ping-pong pour finir. Bon. Je vous objecte le mot de Foucault disant après Kant, chez Hegel et Marx, on bâtit désormais critique des lignes de partage plus ou moins obscures et confuses. Alors attention au mot critique. Bon. Pour renouveler Kant, il ne faut pas moins que Michel Foucault, qui lui a bien prévu cette fracture de culture.
Je comprends bien la réponse au rapport demain, Philippe Soler.
Alors, je répondrai demain.
Philippe Solers, vous ne répondrez pas demain à Maurice Clavel. Nous n'aurons pas le temps. Il faut parfois suspendre les choses et nous quittons là le débat de haut vol entre les deux intellectuels mis face à face par Jacques Paugam de Radio France du 11 au 15 avril 1977.